de Maury Epinander, bien le bonjour, chères grandes oreilles du 102.9. Nous sommes ensemble, une bonne demi-heure, on se raconte, on se papote, un brin de causette, savoureux ou croustillant, juste avant le repas du midi, Smetaes. J'ai fait une belle place à la jeunesse, un jeune chef de cuisine talentueux, avec un avenir prometteur, Paul du prénom, un prénom célèbre hein, dans le 68. Vous vous souvenez, Paul, à Hillhausen. Et c'est grâce au sport, le vélo de compétition, que Paul a trouvé sa voie, son chemin de vie. Et nous allons découvrir tout cela, chers auditeurs, mais tout cela, mais attendez, il manque un truc. Eh, dis-moi, toc, 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 il manque un truc. Qu'est-ce qui se passe, Lucas?
Ton générique.
Ah, j'ai encore oublié un truc. Oh là là, je suis incroyable. Vas-y, mets-moi vite le générique, s'il te plaît.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet.
Ben voilà, c'est quand même bien mieux avec notre générique, avec Julien Clerc qui nous murmure dans les oreilles sa petite chansonnette. À côté, devant ce bouquet de micros, j'ai fait une place à un jeune chef vêtu tout en blanc ce matin. Il est habillé tout en blanc. Et en fait, il est avec son chauffe-clite en alsacien. Bienvenue, Paul Iacono, chef de cuisine au violon d'Ingres, à la robe, à la Roberto. Comment tu gazouilles dans ton monde ?
Eh ben salut André, ça me fait super plaisir que tu m'invites sur ta radio. Et puis,
ouais, ça nous fait plaisir aussi de t'avoir chez nous dans la radio. Tu n'as pas changé, dis-moi.
Ah oui, Paul. Mais toi, pas beaucoup non plus.
Si, j'ai un peu vieilli. Alors dis-moi, tu as grandi à la Roberto et tu travailles à la robe, à la Roberto.
Oui.
Tu as dans un restaurant chicos un peu.
Oui, chicos, on va pas dire ça, mais
ah, quand même.
Peut-être un peu raffiné, oui, et puis ouais. Traditionnel. Voilà, j'ai repris la suite de Eric Meyer, donc c'était un chef voilà, plutôt classique, et puis je suis un peu sa voix avec mes influences et mes envies. Et
on va y venir un peu plus tard, on va d'abord un petit peu parler de toi. Tu as 30 ans et tu as une énorme responsabilité, seule en cuisine, et ton épouse Delphine est en salle. C'est pas rien quand même, tous les deux, être main dans la main ensemble.
Ouais, c'est un beau challenge, mais on est bien entre nous, on se comprend, on n'a pas besoin de beaucoup parler, et puis... Et puis, je pense que c'est aussi reposant d'avoir cette fluidité. Et puis, oui, il y a une grosse responsabilité, mais disons que c'est quelque chose que j'avais en tête de gérer sans problème.
Et je crois qu'on va venir un petit truc. Ton organisation vient un peu de ça. Mets-nous un peu cette musiquette, Lucas.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
On était tous amoureux. Je t'ai mis du vélo, hein, tu sais bien pourquoi, parce que tu étais un compétiteur, ton vélo c'était ta passion hein, quand tu
et
étais
jeune.
Et c'est toujours le cas. Le vélo t'a apporté beaucoup de choses dans la vie.
Ouais,
c'est ton chemin de vie en fait. C'est ce qui t'a aidé dans ta vie, le vélo.
Oui, complètement. Après, voilà, j'ai aussi appris en cuisine avec des chefs qui m'ont montré comment travailler mieux, plus intelligemment, qui m'ont expliqué les techniques pour travailler les produits. Mais tout le fond, toute la base, toutes les idées, tout le sens vient de ça. Parce que le vélo, c'est une vraie école de la vie.
Le vélo, en fait, c'est un truc de dingue, c'est un truc de forçat, il faut pédaler avec panache, c'est du béton, enfin, tu as fait combien de kilomètres par an? Tu fais 15 à 20 000 bornes par an de préparation.
Oui, c'est ça, à peu près. Ouais.
Mais c'est énorme. Et ça t'a appris, chaque coup de pédale, t'as avancé dans ta vie, et tu t'es dit un jour, voilà ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de devenir professionnel du vélo, et ça n'a pas marché.
Ouais, c'était un rêve de gosse, ça. Faire le Tour de France, être pro.
Mais t'avais tout pour réussir.
Ouais, j'étais un très bon régional, mais comme dit, pour avancer dans ce milieu, il faut lever les bras sur des grosses courses plusieurs fois. Donc ça n'a pas été...
Tu veux dire, il faut être un peu roublard, tu veux dire, pour gagner un Tour de France?
Ouais, il faut être vraiment déterminé à gagner. C'est la base pour passer un cap et en vivre, quoi. Il faut lever les bras sur des grandes courses et pas qu'une seule fois.
Tu veux dire t'étais trop gentil, comme
j'étais,
garçon.
J'étais un mec généreux. Enfin, je suis toujours un mec généreux qui calcule pas beaucoup et qui donne tout ce qu'il a sans compter. Mais et puis dans ce milieu, il faut être aussi un peu malin. Il faut
savoir. Mais tu l'es, ça, malin.
Je dirais plutôt que je suis prévoyant.
Ah, c'est
et organisé.
C'est pas mal, ouais, c'est bien répondu, ça. Et alors, je sais aussi que tu viens d'une grande famille. Ton père était un grand nageur qui a nagé au Mône à Mulhouse, mais qui a gagné les Jeux Olympiques.
Non, il n'a pas gagné les Jeux Olympiques.
Il
a
participé.
Finaliste,
voilà.
Oui, à
voilà.
Séoul et à Atlanta.
Bah, c'est pas rien,
et recordman de France pendant plus de 15 ans sur la distance de 1500 nage libre et 800.
Voilà. En crawl.
Oui, en nage libre. Oui.
En nage libre, waouh. Wow.
Et, ouais.
Et donc, tu avais quand même des facilités, en fait, de ton papa, dans les gènes.
Oui, on a toujours été une famille qui, pas au-delà du sport, qui a beaucoup d'énergie et qui est rarement à ne rien faire, quoi. Donc, ça a été le sport pour mon père, ça a été aussi le sport pour tous les membres de ma famille.
De ta famille.
À certains niveaux et à une certaine implication, c'est toujours différent.
Et ton papa s'est rendu compte, ou ton grand-père, que tu avançais vite avec un vélo, déjà avec les petits trous derrière, les quatre petits trous? Il voyait que tu avais des facilités pour rouler?
Oui, j'ai toujours eu une aisance sur le vélo, ça a toujours été une évidence. Mais après, voilà, c'était surtout pour me canaliser. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu hyperactif. Et puis, le vélo, c'est un moyen exceptionnel pour se vider la tête et pour ça s'agir.
Ouais. Mais le gabarit, tu l'as, t'es grand, t'es mince, t'as pas pris un kilo depuis que je te connais?
Non, non, 10 ans de cuisine, pas un gramme de plus.
Tu manges pas?
Si, je mange beaucoup.
Tu manges beaucoup, bah,
beaucoup,
dis donc,
et très gras.
Tu as de la chance. Et alors, être professionnel, c'est vrai que tu le disais à l'instant, tu faisais 15 à 20 000 par an, 180-200 km par jour de préparation. Pédaler, tu montais les montagnes, c'était incroyable quand même de faire ça.
Ouais, bah c'est.
Par temps de pluie, par tous
les
temps,
par
tu
tous
sortais.
Les temps, toute l'année. Si c'est pas la route, c'est du cyclocross. Si c'est pas le cyclocross, c'est de la piste. Je prends plaisir à être sur le vélo tous les jours si c'est possible.
Tu le fais toujours? Tu fais toujours du vélo en
oui,
ce moment?
Oui, bien sûr, même j'ai jamais arrêté.
Enfin, tu trouves le temps de le
oui,
faire?
Oui, je trouve toujours le temps, soit à la coupure, soit le week-end. Je m'arrange, j'arrive toujours à trouver un moment pour pédaler parce que c'est une nécessité.
Et tu n'as pas de petit moteur dans ton vélo, t'es sûr?
Et non.
Dans le cadre, il n'est pas caché quelque part comme Tour de France.
Non, de toute façon, quel intérêt?
Ouais.
Je ne fais pas ça pour faire de la performance, je fais surtout ça pour avoir un esprit calme et réfléchi la plupart du temps. Je me vide la tête quand je fais 4 heures de vélo, je me parle à moi-même et je refais le monde.
Ah oui, c'est génial de dire ça. C'est vrai, le sportif, c'est ça, quand tu cours, quand tu fais...
C'est ça.
Moi, j'ai fait quelques semi-marathons, je sais que la course à pied, ça m'a aussi... Ça t'apprend à vider la tête, ou c'est comme si t'allais au bureau, quoi. Là, il est en train de boire de l'eau en direct parce qu'il a toujours sa grande fiole d'eau, comme en fait sur le vélo, hein. C'est un bidon de cycliste que tu as devant tes yeux là.
Oui.
Tu bois toute la journée de l'eau?
Bah, pendant le service, je passe des fois 2 heures sans boire avec la mise en place et je m'en rends pas forcément compte et du coup, je me réhydrate après simplement.
Ouais, c'est important, quoi. Ouais, de boire tout le temps. Et alors, raconte-moi un petit peu, revenons un petit peu à nos boutons, comment tu es venu à la cuisine? Qu'est-ce qui t'a fait que tu es devenu chef de cuisine? Du vélo, c'était un autre pas? Tu vas vers la gastronomie?
C'est cocasse.
C'est incroyable, quand même.
Oui, oui, oui. Bah, j'ai quitté le bac avec pour rêve d'être cycliste, mais bon, je me suis rapidement rendu compte que ça allait être compliqué. Et après, j'ai fait comme n'importe quel jeune de mon âge, à 20 ans, de trouver du boulot.
Tu voulais être pompier de Paris aussi, je crois.
Ouais, je voulais être pompier. Ça n'a pas fonctionné non plus.
Tant mieux pour toi que ça n'a pas fonctionné.
Je ne rentrais pas dans le cadre moral de ce qu'il fallait être. Et disons que, du coup, j'ai fait comme n'importe quel jeune. J'ai trouvé du travail par nécessité. Et puis, c'est avéré que la cuisine, c'est toujours un milieu qui recrute énormément.
Qui c'est qui t'a appris un petit peu à cuisiner? Où tu as vu la première fois la cuisine? C'est ta mamama qui t'a appris à cuisiner, ou ta maman?
Personne ne m'a appris à cuisiner à part les chefs. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les plats de mes parents.
C'était quoi, par exemple, ta mamama, elle te faisait
elle
quoi?
Faisait...
Des spätzle, des nudes?
Non, le lorgemis.
L'orgemis, enfin, c'est
génial. C'est le légume du poireau avec des pommes de terre.
Oh, c'est pas vrai.
Mais si, ça c'était.
Ah ouais?
Ça c'est toujours un truc. Ma grande tante faisait des knödel aux abricots.
Ah ouais, d'accord. Ouais, comme un peu en Allemagne, quoi.
Ouais, une spécialité autrichienne qui est très bonne et très riche. Et voilà.
Ouais.
Et puis tous ces plats en sauce là qui font rêver quand on est gosse et on se dit à un moment donné, putain, quand ils seront plus là, ceux-là, comment on va faire pour se faire autant plaisir?
Bah,
et puis,
ouais. Voilà. Ouais. Bah écoute, on va écouter un tout petit peu de musique avec, avec Bourvil. Tu vas voir, c'est très sympa. On va se faire reposer un tout petit peu les oreilles pour se détendre, comme quand tu fais du vélo et que ta petite voix intérieure se parle. Allez, on y va, Lucas.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Dis-moi, Paul, il faut aussi de la tendresse dans la cuisine. Je crois que la cuisine, c'est aussi un art avec des gestes bien précis. On fait appel à tous les sens, même à la tendresse.
La tendresse, je dirais au moment du dressage. Si on est en place et qu'on est tendre à ce moment-là, oui, c'est sûr qu'on envoie la plus belle cuisine qui soit. Après, la mise en place, elle se fait des fois un peu dans la douleur et puis
dans la vitesse,
dans la précipitation de temps en temps, quand on n'est pas organisé à 100%. Et tout ça, c'est des petits rouages qui sont difficiles à mettre en place. C'est toute la base du travail.
Mais alors, dis-moi, comme un joaillier, tu as une petite pince, comme une pince à épiler, tu places les légumes, tu places les trucs. Est-ce que c'est comme ça que tu travailles ?
Non, pas vraiment. j'ai appris à travailler comme ça. Après, ce n'est pas ce que j'aime faire. Et
pour... On débarrasse la pince, là.
Ouais, la pince, ce n'est pas nécessaire pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir
une
cuisine.
Tu as des tenailles ? Non, tu n'as pas de tenailles non plus.
Non plus. Je travaille avec mes mains, je travaille avec la cuillère, je travaille avec la spatule. Et je cherche à faire des goûts raffinés. Avec des identités propres. Chaque viande a sa sauce, chaque poisson a sa sauce et a son accompagnement. J'ai envie de faire quelque chose de réfléchi, mais dans le goût où je mettrais, disons, le point d'honneur. Et puis, dans le dressage, il faut que ce soit simple.
Et est-ce que ce dressage, c'est aussi un peu un côté artistique, parce qu'on mange aussi avec les yeux, l'assiette doit être belle, elle doit avoir, même si tu mets les meilleurs, plats, il faut quand même que le regard soit aussi attiré par la beauté de l'assiette.
Tout à fait, mais après moi je parle pas d'une assiette, je parle d'un produit, il faut que le produit soit attirant. L'assiette, c'est un support du produit. Pour moi, si la viande est parfaitement cuite, qu'elle est parfaitement laquée, que la sauce est à point, le produit parle. La façon dont on le pose, plus elle est simple, plus elle est classique, et pour moi, plus mieux c'est. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire des petits décors. Je me considère pas comme un artiste. Je me considère comme un cuisinier simplement et qui a envie d'aboutir son travail au maximum du goût. Et il n'y a que ça qui m'intéresse.
Ben c'est bien, Paul, ce que tu dis, ça me fait plaisir, parce que je sens que tu es un passionné et que tu vas réussir ce que tu as déjà réussi, ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. Je sais aussi que tu as été dans des très belles adresses, comme la vallée de Allée de la Bruche, chez Gérard Götz, tu as été à la Chenaudière, tu as fait de belles maisons. Hein. Je connais la Chenaudière, c'est Roger, non, le chef un peu sauvage ?
Je me souviens de lui. C'était Roger qui est parti à la retraite maintenant.
Je sais, je le connais bien.
Oui, c'est une super personne.
Ouais, c'est une belle personne.
On a passé des bons moments là-bas en cuisine, comme à discuter. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui m'a fait avancer dans la vie.
Tous ces chefs t'ont amené un petit peu quelque chose. Chaque fois,
oui,
t'as appris
chacun,
des choses différentes.
Chacun a sa spécialité, je veux dire, psychologiquement ou dans sa manière d'être. Et c'est ça qui est important dans le fait de travailler avec ces personnes.
Parce qu'en fait, tu as appris le métier, tu viens de nulle part. Tu es un autodidacte, tu as appris ça toi-même.
Oui, c'est ça.
Et c'est les gens les plus recherchés, en fait. C'est ce que les gens aiment. Quand tu n'as pas fait toutes ces écoles où tu apprends des choses, tu l'as appris par toi-même.
Oui.
Tu as de l'audace, du courage, c'est ça.
C'est surtout de la volonté.
C'est ça.
La volonté, beaucoup de travail. Je ne me considère pas meilleur que les gens, meilleur que les autres.
T'es différent.
Mais je travaille beaucoup plus. Je pense que je travaille beaucoup plus.
Ouais, c'est ce que...
D'une manière générale, je pense que c'est ça ma différence.
Tu passes combien d'heures dans cette cuisine, dans ce joli violon d'ingre là-bas derrière, à la robe ?
Tu peux
passes...
pas le dire.
15-20 heures par jour ?
Non, pas 20 heures, mais
au moins 15, quoi.
Au moins 15, oui.
Et t'arrives à te reposer, à dormir un peu quand même.
C'est
avec
un rythme.
Tout ce qui doit chevaucher dans ta tête, à tout ce qu'il faut penser tous les jours et tous les soirs. Et
alors au début, c'est vrai que ça fait un peu marée, ça fait un peu tsunami, mais il y a toujours un calme, il y a toujours un replat. Ouais. Ce ne sera pas tout de suite, mais ça viendra.
C'est le vélo qui t'a amené ça aussi ?
Oui, ça c'est comme le second souffle.
Ah oui, ah
si
oui c'est vrai.
Si on veut traduire l'idée...
C'est là quand tu pétarades, quand tu pars en vitesse.
Ouais, et d'un seul coup, à un moment donné, le cœur s'habitue à ces accélérations. Ah et puis, il y a un moment de calme qui permet de durer plus longtemps.
Ouais, c'est beau ce que tu dis, tu es vraiment un vrai sportif. Ensuite aussi, on peut dire que tu étais dans d'autres belles adresses. Hein. Tu as été à Sessenheim chez Yannick aussi.
Oui,
hein,
j'ai fait un
qui a aussi une belle cuisine. Hein, il a une cuisine, je me souviens de son piano, il est tout bleu comme ça. Magnifique piano. Ouais, ouais. Et après, tu avais envie d'aller vers les étoiles. Tu avais envie d'aller dans un restaurant au Bubu chez Eric Westermann, aussi une très belle personne. Où tu as travaillé juste à côté, dans l'autre parc de l'Orangerie.
Oui, tout à fait, qui m'a offert une belle opportunité à
tu
travailler.
Tu étais quoi
chez
là-bas
lui.
Qu'est-ce que tu avais
J'étais seconde cuisine.
Seconde cuisine ?
Oui.
Wow. Et là, tu avais quel âge ?
Bah, je suis rentré là-bas, j'avais 25 ans,
wow.
27 ans.
C'est quand même pas rien d'être second au bureau Hiesel.
Oui, hein? Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir toute cette brigade à analyser. On sait toujours de quoi on est capable à un certain moment tout seul, mais on ne sait pas ce qu'on peut faire avec une brigade.
Ouais.
Avec une brigade, il y a beaucoup plus de force, beaucoup plus de travail qui est possible. Donc les assiettes parlent et se ressentent aussi à ce niveau-là. Quand on est seul, à un moment donné, on stagne à un certain niveau. Avec une brigade, chaque maillon bien huilé, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel.
Et alors, je me souviens aussi dans les cuisines, comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui annonce et derrière, déjà tout le monde se prépare. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. C'est un peu militaire comme
ouais,
ça, des
c'est
fois.
Ça,
hein.
C'est ça.
Et puis, il faut y aller, quoi.
Il n'y a pas de place pour le hasard.
Pour le hasard, oui. Ah ouais,
aucune.
C'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a apporté, Eric Westermann ? Qu'est-ce qui t'a apporté dans ta profession ? Il t'a appris quoi ?
Bon, comme tous les autres chefs, il m'a fait grandir, mais c'est lui qui
a... Bon, t'es déjà grand, t'as quelle taille ? T'as 1m98, non ?
Non, pas du tout. Non, je suis pas à 90.
Mais ouais, c'est pas mal,
peut-être
déjà.
Peut-être juste un peu en dessous. Oui, non, mais comme tous les chefs, il m'a fait grandir profondément. Et puis, c'est peut-être lui qui a fait qu'à un certain point, j'étais au sommet, selon moi, de mon apprentissage,
de ce
on va
que
dire.
Tu as pu apprendre,
voilà, de tout ce que j'ai pu apprendre, et puis c'est lui qui a finalisé le truc, quoi. Donc
ouais, sympa,
c'est voilà, c'est.
Et alors, au Buris, il y a ce fameux plat de son papa, d'Antoine, les Schnitzelspätzle là avec les cuisses de grenouille, c'est quand même un plat extraordinaire, ça, non ?
Ah oui, oui.
Hein ?
C'est sûr.
Et
c'est
les
sûr.
Grenouilles viennent pas du Rhin, hein, je pense. Elles viennent pas de Lille, elles viennent de loin, non ? J'imagine. On va pas le dire d'où elles viennent. Elles viennent d'une autre planète. Ouais. Mais c'est bien ce que tu as appris là-bas, alors, chez au Buris.
Ah,
t'as
oui,
fait
oui.
des desserts aussi, non ?
Non.
T'as fait que des plats ?
Non, il y avait un super chef pâtissier quand je travaillais là-bas.
Ouais, qui est toujours
là. Bastia Dame Bachet qui est.
Ah oui. Et alors un jour, tu rêverais, toi, d'avoir des étoiles dans ton violon d'ingre ou tu n'es pas.
Non,
c'est pas
non,
ça qui t'intéresse
après.
Dans la vie ?
Je cours pas après. Comme dit, j'ai pas forcément envie de rentrer dans un moule. Je sais que je suis très, j'ai une façon d'être qui est assez spéciale. Et puis, je fais ce qui me plaît avant tout. Et dans ce sens-là, si ça plaît aux autres, tant mieux. Et puis, si ça va pas et que ça rentre pas dans un cadre étoilé Michelin, bah, moi, ça me pose aucun problème.
Ça pose pas de problème.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir aux locaux. Et
tu parles des locaux, tu as une clientèle locale de la Roberto, du quartier.
Oui, déjà, parce que c'est un restaurant qui est quand même là depuis longtemps. Déjà, Eric, il l'avait pendant 36 ans. Et puis avant ça, c'était une brasserie Perle à l'époque.
Ah ouais.
Qui s'appelait Les Trois Fleurs. Et ça, depuis encore plus longtemps avant. Donc ça a toujours été un restaurant de quartier. Finalement, la Roberto, c'est un quartier très ancien, de maraîchers, de gens de l'agriculture. Et puis, il y a plein de petits paysans autour.
Tu sais comment on les appelle en alsacien ? Les leuches, les poireaux. Leuches, les poireaux.
Les trépineurs de poireaux.
Les trépineurs de poireaux, ouais. Tu en mets aussi dans tes recettes, du leuche,
du poireau ? Oui, j'ai un plat à base de poireaux de la Roberto, de la ferme Andresse.
Ah, bah la famille
Andresse.
Avec
un œuf poché et puis une sauce un peu spéciale.
Fais-moi un peu rêver. Dis-moi voir un petit peu ce que tu as dans ta carte. Qu'est-ce que j'ai beaucoup entendu parler de ton pâté de viande là, ou comment tu appelles
l'oreiller.
Ça l'oreiller, c'est comme un oreiller, quoi.
Oui, à la base, la vraie recette, c'est l'oreiller de la Belle Aurore. C'est un pâté de gibier qui se fait à la fin de Noël jusqu'au début de l'année, janvier. et qui vient de Lyon avec 14 viandes de gibier, de la truffe, de la morille et plusieurs farces.
Et ça, c'est ton idée ? C'est toi qui as mis ce plat en place ?
Enfin, moi, je l'ai adapté avec des produits un peu plus simples. Je mets du riz de veau dedans, je mets une farce cochon truffé, je mets des morilles suées au jus de viande et je fais une pâte dont j'ai le secret.
Ah, il ne faut pas tout dévoiler, il ne faut pas tout dire, évidemment. Hein.
Une pâte qui est très riche, qui tient bien, la croûte est épaisse.
Et ça, tu l'as toujours à la carte aujourd'hui encore.
Ouais, ça, c'est un truc qui va rester.
Qui va rester
ad vitam aeternam jusqu'à ce que les gens s'en lassent.
Et qu'est-ce que tu aimes bien encore présenter aux gens ? Qu'est-ce que tu leur proposes quoi comme plat en ce moment ? À midi, par exemple, tu as fait quoi comme plat ? T'as fait des viandes, t'as fait du poisson ?
Oui, à midi, j'avais par exemple un faux filet de veau, sauce béarnaise, carottes glacées et pommes dauphines. Mm-hmm. Ça, c'était le plat du jour. Et puis un petit vacherin à la rhubarbe.
Waouh ! Que tu as fait toi-même ?
Oui, bien sûr.
Ah, moi, j'adore les
tout
vacherins.
Tout est fait maison, chez moi.
Ah ouais ?
Du pain jusqu'à la mignardise.
C'est pas vrai. Oui. Mais dis donc, je comprends que tu passes 15 heures par jour là-dedans. Hein. Donc, il faut être hyper organisé comme au vélo. Hein. Quand tu montes l'Alpe d'Huez, c'est pareil. Hein.
J'ai jamais monté ce col.
Ah, je pensais que tu avais monté le col de l'Alpe d'Huez. Les 18.
Très sédentaire, très alsacien, je pars pas beaucoup.
Donc tu vas où ? Tu vas au Neck ? Tu vas au Champ du Feu ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, tu fais ces cols-là, donc tu les connais comme ta poche, j'imagine.
Oui, la plupart.
Ouais, ouais, ouais.
Après, il y a toujours des surprises, même quand on croit qu'on connaît, on se fait toujours surprendre.
Surprendre par quoi ? Par la météo ?
Une nouvelle route, une déviation qui nous pousse vers un autre circuit, toutes ces petites choses, quoi.
Ouais. Alors, on peut le dire, le Vieux-Lot d'Ingres, c'est aussi un peu gastro. Hein. C'est pas.
On peut le dire. Oui.
C'est un gastro, donc depuis toujours. Hein, ça a toujours été.
Ça a
une
toujours été. J'aime pas forcément le terme gastro parce que on est entre la gastronomie et la bistronomie. Moi, je trouve qu'on.
Bistronomie. Ah ouais.
Oui.
Ah ouais. C'est un joli mot que je connaissais pas.
J'aime pas trop ce côté sérieux, prise au sérieux. On fait du boulot sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et dans ce cadre-là, je fais juste une cuisine raffinée, dans une bonne ambiance, calme, feutrée. Et je cherche pas à rentrer dans un cadre spécial. Quand on dit gastronomie, on s'imagine tout de suite les nappes blanches bien repassées, limite un peu très droit. Chez nous, c'est chaleureux.
Voilà. Mais je trouve que tu as beaucoup d'avance, à 30 ans déjà, d'avoir autant de responsabilités, d'avoir tout ce restaurant avec ton épouse sur les bras. C'est quand même, je ne connais pas de chef aussi jeune qui rentre dans un restaurant comme comme celui-là où tu es. Tu vois, je pense que les chefs ont peut-être plus...
Je sais pas.
Là, je trouve que t'es jeune, c'est bien.
C'est une opportunité qui s'est présentée parce que j'ai toujours été en contact avec Eric après être passé chez lui travailler.
Tu avais déjà travaillé là-bas.
Oui, j'ai travaillé chez lui de 2014 à 2017.
Donc, tu connaissais bien la maison, quoi.
Oui, je connaissais parfaitement la maison. Et puis, quand il m'a dit qu'il voulait chercher un repreneur, moi, c'était quelque chose que j'avais toujours en tête. Hein. Je suis issu de ce quartier.
Et ça a été facile de reprendre ? Il y avait d'autres personnes qui avaient envie de reprendre ce restaurant ?
Ça s'est passé un petit peu en catimini. Il me l'a proposé comme ça, en premier lieu. Et puis, j'y avais pas trop de... La négociation était très simple.
Simple. Et alors, d'avoir ta femme en salle, c'est quand même... C'est bien aussi d'être tous les deux.
Ouais.
D'être tous les deux.
C'est clair.
Et vous êtes travaillé un peu main dans la main, tous les deux.
Oui, c'est ça.
Tout à l'heure, tu disais, on n'a pas besoin de se parler, un regard suffit et on se comprend.
Oui.
Donc, tu as trouvé vraiment quelqu'un qui...
Après, ma femme, je la connais depuis 8 ans, donc...
Elle vient aussi de ce monde de la gastronomie ?
Elle y est venue un peu plus tard que moi. Elle a fait un passage après avec le Covid pour tout ce qui était salle. C'était très compliqué. Hein, la cuisine, les cuisiniers s'en sont mieux sortis que le côté service, on va dire, pendant cette période. Donc elle a dû laisser ça de côté un petit peu après le virus. Et à partir du moment où j'ai eu cette opportunité, elle était à fond derrière.
Ouais. Après... tu es tout seul en cuisine, tu es seul maître à bord, t'es pas trop débordé avec tout ça quand dans la salle les gens font la commande, le billet passe et là donc tu réponds aussi à ta femme oui chef et tu y vas et tu fais le plat.
Je lui réponds oui, ça suffit.
Donc vous êtes chef tous les deux. Ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc, chacun sa responsabilité.
Chacun sa responsabilité.
Chacun son...
Et après, dis-moi, tu vas aussi un peu en salle de temps en temps pour écouter un peu les gens,
fait,
pour voir un
fait.
Peu ce qu'ils te racontent.
Oui, ça m'intéresse, forcément. Je cherche à savoir, parce que dans l'expression des gens, même s'ils ne connaissent pas forcément la cuisine, ils ont toujours une manière de s'exprimer qui est particulière quand ils parlent de leur plat. Il y en a qui vont dire c'était bon, il y en a qui vont dire c'était exceptionnel, il y en a qui vont dire c'était très très bon, et chaque nuance veut dire quelque chose. Et la façon dont elle est dite, ça me donne des très bons indicateurs sur ce que je suis capable de faire, sur ce que je dois améliorer ou sur ce qui passe. Parce que quand on est derrière, dans le bouillon, dans le coup de feu, on sort les assiettes, et on n'a pas l'ambiance qui va avec, et on ne s'imagine pas vraiment comme on est à la place du client, sa réaction. Et en fait, à connaître les gens et être un peu physionomiste comme ça, ça permet de mieux cadrer le travail et de ne pas partir sur des choses qui sont peut-être inutiles ou qui sont malvenues juste pour de la déco. Ou voilà. On reste sur l'essentiel et on a un retour sur l'essentiel. C'est ça qui est intéressant.
T'as déjà eu des grinchots qui te disent il y a peut-être trop de poivre, hein, pas assez de sel. Est-ce que t'as déjà eu ça depuis...
Non, j'ai eu une cuisse de caille un peu qui était confite et qui était un peu trop salée au goût d'un monsieur et d'une dame, et avec une façon de le dire qui était
avec
bienveillante.
D'accord. Donc
il
n'y
avait pas trop de problèmes. Non, franchement, pour un démarrage depuis 2 semaines, je trouve que
ça fait que 2 semaines ouais, que tu es dans à cette place.
Oui,
waouh.
Wow. Pour depuis 2 semaines, c'est un très bon démarrage.
Et comment les gens savent que tu es là? T'as eu des articles de presse déjà?
Non, pas
dans
du
les
tout.
Jours pas
encore. Enfin, il y a eu le blog de la Robertsau qui a publié...
Ouais. Non, mais il faut qu'on appelle les journalistes pour leur dire, je vais appeler mes copains.
Ouais, vous savez, la pub, elle se fait parce que... Robertsau, c'est quand même un quartier qui est très parlant, où tout le monde se connaît, les choses vont très vite, les gens parlent entre eux, et puis la pub...
c'est dans le bouche à oreille, tu as raison,
voilà,
c'est la meilleure
publicité. Dans un premier
temps,
ça me laisse aussi le temps, quelque part, de soigner ce que je fais, de le mettre en place de la manière la plus propre possible, et pas tout de suite se mettre une corde au cou
Ouais, mais des fois on a aussi besoin d'être un peu dans la lumière pour dire aux autres voilà ce que je fais, tu vois, c'est important. Moi je viens un peu de ce monde là de la télévision et du journalisme, je sais que de temps en temps ça fait du bien aussi. Moi par exemple, quand j'ai fait mes Goethe-heure, mais pendant 10 ans toutes mes émissions, ben les chefs effectivement étaient contents quand ça passait à la télé. Oui. Après il y avait quand même un retour, quoi, tu vois, les gens venaient là-bas, voulaient savoir. Mais en tout cas, ce midi ça s'est bien passé, ton service? T'avais
ouais,
du monde en salle.
Ouais, ouais. J'ai eu quelques amis qui sont venus et il y a eu d'autres personnes, et puis le restaurant était pas tout à fait rempli, mais il était bien plein.
Et ce soir, pour le service, là après l'émission, tu vas tout de suite retourner en cuisine.
Oui.
Et qu'est-ce que tu vas faire en rentrant ton vélo là devant la synagogue,
ouais,
je crois.
Ouais.
Et puis ton bidon d'eau là, parce qu'il n'arrête pas de boire, hein, pendant qu'on parle. C'est normal, il faut s'hydrater. Ouais. Et dis-moi, dans cette clientèle, tu as aussi un peu les parlementaires qui viennent?
Oui, ça arrive, oui.
C'est une bonne clientèle?
Oui, c'est une bonne clientèle. Après, ils ont leurs exigences, et en général, ces gens-là, enfin ces personnes-là, cherchent une cuisine classique, bien faite, bon marché, enfin, comment dire, avec un rapport qualité-prix correct, et qui soit simple et efficace.
Bon, Paul, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? L'émission se termine tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir et pour cette année 2023? Que tout se passe bien, ça continue.
Le plus dur, c'est de tenir.
Ouais, mais ça, c'est pas un problème. En tout cas, moi, je te remercie, Paul, d'être venu ici, de nous parler un peu de ton travail, de ta jeunesse. Et j'espère que tout va aller, mais je me fais pas de soucis pour toi. Je te connais, je sais que ça va marcher. Quelqu'un qui fait du vélo de haut niveau fera aussi de la très bonne cuisine. Merci d'être venu jusqu'à chez nous.
C'est
Paul,
moi.
À bientôt. Porte-toi bien. Allez, Lucas, c'est fini. Tu peux mettre le générique de fin, mon ami.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.